Le nouveau Parlement iranien entame ses activités alors que le leader met l'accent sur la démocratie religieuse. Les frappes aériennes d'Israël tuent des dizaines de Gazaouis déplacés à Rafah. Et Nouvelle-Calédonie, le président français se montre déterminé à organiser un référendum. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le 12e Parlement iranien est inauguré avec un message du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Dans son message du lundi 27 mai, le leader a souligné l'importance de la poursuite et du renforcement de la démocratie religieuse, ce grand cadeau divin à la nation iranienne. Chaque membre du Parlement est un représentant de la nation, ce qui signifie que la principale activité des députés est de garantir les intérêts nationaux du pays, a expliqué le leader de la révolution islamique. Le guide suprême a recommandé aux députés du 12e Parlement d'éviter d'approuver des plans de développement qui dépassent le budget alloué. L'ayatollah Khamenei a salué le travail des membres de l'ancien Parlement et a appelé les nouveaux parlementaires à renforcer l'interaction avec les pouvoirs exécutifs et judiciaires du gouvernement et à adopter une attitude collective correcte basée sur la patience. Il les a avertis que leur serment n'est pas un simple serment de spectacle, mais qu'il est bien réel et qu'il leur donnera des responsabilités. Lors de la séance inaugurale, à laquelle ont participé de hauts responsables iraniens et des invités étrangers, 290 députés ont prêté serment. Les élus serviront pour un mandat de 4 ans. De nouveaux députés ont été élus lors de 2 tours d'élections organisées le 1er mars et le 10 mai. Le 11e Parlement a tenu sa dernière session le 21 mai. Une semaine après la mort à martyr du président Ebrahim Raisi dans un tragique accident d'hélicoptère dans le nord-ouest du pays, le ministère iranien de l'Intérieur a entamé le processus officiel d'élections présidentielles anticipées prévues pour fin juin. Le ministre de l'Intérieur Ahmad Vahidi a publié dimanche 26 mai une instruction adressée aux gouverneurs des provinces de mettre en place des comités exécutifs électoraux dans les 3 prochains jours. L'instruction demande aux autorités concernées d'exécuter le projet électoral selon le calendrier précédemment fixé pour les élections. Selon l'article 131 de la Constitution iranienne, les élections présidentielles anticipées doivent être organisées pour élire un nouveau président par le suffrage universel dans un délai maximum de 50 jours à compter du jour du décès du président de la République ou de son incapacité de remplir ses fonctions. Le président iranien par intérim, Mohammad Mokhber, a déclaré que Téhéran ne ménagerait aucun effort pour développer sa coopération tous azimuts avec le Soudan. Mohammad Mokhber a fait ses remarques lors d'une réunion ce dimanche 26 mai avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Hossein Awad Ali, en déplacement à Téhéran pour assister aux funérailles du président Ebrahim Raisi et de ses compagnons, victimes d'un accident d'hélicoptère le 19 mai. Il a ajouté que le feu président Raisi et son ministre des Affaires étrangères avaient joué des rôles efficaces dans la promotion des liens de l'Iran avec les pays musulmans. En tant que politique fondamentale de la République islamique d'Iran, cette approche sera poursuivie, a souligné Mohammad Mokhber. Il a remercié le gouvernement et le peuple soudanais d'avoir exprimé leur sympathie aux Iraniens à la suite de cet incident tragique. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a déclaré que la République islamique d'Iran est capable de surmonter toutes les épreuves difficiles. Awad Ali a déclaré que les liens entre Téhéran et Khartoum reposaient sur des bases religieuses et humanitaires et sur l'amitié entre les deux nations. En octobre 2023, l'Iran et le Soudan ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques après ces temps de rupture. Téhéran et Khartoum ont décidé de rétablir leurs relations après que l'Iran et l'Arabie saoudite ont signé un accord négocié par la Chine en mars 2023 pour rétablir leurs relations après une rupture de 7 ans. Dans un communiqué publié en octobre 2023, le ministère iranien des Affaires étrangères avait annoncé que Téhéran et Khartoum étaient convenus de développer des relations cordiales fondées sur le respect mutuel de la souveraineté et leurs intérêts communs. Dans le cadre d'un développement diplomatique important, l'Iran et le Soudan ont convenu samedi d'accélérer la réouverture de leurs ambassades. La décision a été prise lors d'une réunion entre le ministre par intérim des Affaires étrangères de l'Iran avec le ministre soudanais des Affaires étrangères à Téhéran. Selon le ministère soudanais des Affaires étrangères, les deux parties ont convenu d'accélérer l'ouverture des ambassades dans le but de contribuer à promouvoir les relations au plus haut niveau. Elles ont discuté des moyens d'élargir les relations dans tous les domaines. Les avions de guerre du régime sioniste ont ciblé les tentes des déplacés au nord-ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tuant des dizaines de civils palestiniens. Selon le Croissant Rouge palestinien et le bureau des médias du gouvernement à Gaza, au moins 50 Palestiniens déplacés ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans les bombardements du régime contre plus de 10 centres de déplacement mis en place par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré dans un communiqué que les frappes israéliennes avaient coûté la vie à 50 Palestiniens et fait des dizaines de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes. Les équipes d'ambulance du Croissant Rouge palestinien transportent un grand nombre de martyrs et de blessés laissés par les attaques du régime d'occupation contre les tentes et personnes déplacées près du siège des Nations Unies au nord-ouest de Rafah, a déclaré le Croissant Rouge dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, rappelant que cet endroit a été désigné par les forces d'occupation israéliennes comme zone humanitaire. La défense civile de Gaza, pour sa part, déclarait que les frappes israéliennes avaient tué et blessé au moins 50 personnes dans la zone où vivaient 100 000 déplacés. Le comité international de la Croix-Rouge a déclaré dans un communiqué qu'un de ses hôpitaux de campagne recevait un afflux de blessés qui ont besoin d'être soignés et a indiqué que d'autres hôpitaux recevaient également un grand nombre de patients. « Nos équipes font de leur mieux pour sauver des vies », a dit le comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Israël a lancé sa guerre brutale contre Gaza le 7 octobre dernier. Le régime israélien a commis des crimes de guerre à Gaza, faisant au moins 35 984 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et 80 643 blessés palestiniens. De vives tensions perdurent en Nouvelle-Calédonie alors que les forces de l'ordre françaises échouent à démonter durablement les barrages, selon un rapport publié dimanche 26 mai sur RT. La nuit du 25 mai, 2700 policiers et gendarmes démontent les barrages avant de les voir reconstruits pendant la journée. Les rues de Nouvelle-Calédonie ont été le théâtre de scènes de chaos avec des voitures et des magasins en proie aux flammes, y compris des établissements bancaires. Les protestataires inspectent les véhicules avec minutie, obligeant ainsi les conducteurs à sortir de leur voiture en gardant leurs mains sur la tête, relate le Parisien. La ministre déléguée au territoire d'outre-mer français, Marie Guévenoux, a reconnu que la situation demeure extrêmement complexe pour les résidents de l'île, en particulier dans le Grand Nouméa. Cette déclaration, rapportée par l'AFP, souligne les défis auxquels sont confrontés les habitants de cette région. Elle a aussi précisé que le policier qui avait tué un homme, la septième victime depuis le début des émeutes, avait été placé en garde à vue. Depuis le 13 mai, des émeutes font rage en Nouvelle-Calédonie, dans la foulée de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une réforme du corps électoral local pour les scrutins provinciaux. Les partisans de l'indépendance jugent que l'élargissement de celui-ci au bénéfice des nouveaux arrivants mettra en minorité le peuple autochtone Kanak, qui représente plus de 41% de la population. Le président français a rappelé espérer voir les élus calédoniens s'entendre avant la fin du mois de juin sur un accord global qui viendrait enrichir le texte déjà voté au Parlement. Le 23 mai à Nouméa, Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas faire passer en force la réforme. En même temps, il refuse de reporter cette réforme sous la pression de la violence, toujours selon le Parisien. Elle doit encore être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès pour être validée. Le continent africain a déclaré samedi la journée de l'Afrique avec un appel à réaliser les aspirations continentales fondatrices de l'Union africaine. La journée de l'Afrique est observée chaque année le 25 mai pour célébrer les accomplissements de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, créée le 25 mai 1963 et relayée par l'Union africaine UA en 2002. La journée est commémorée pour reconnaître le rôle du bloc continental dans la lutte contre le colonialisme et les progrès réalisés par l'Afrique, tout en réfléchissant aux défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial, selon l'Union africaine. Depuis la création de l'OUA, l'Afrique s'est libérée du jeu colonial et de l'exécrable système d'apartheid. Ses ressources intellectuelles, scientifiques et culturelles se sont immensément développées, diversifiées et enrichies, a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, dans son message publié à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique de cette année. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Compte à rebours avant la vente d'armes offensives par les États-Unis à l'Arabie Saoudite. Les États-Unis pourraient lever l'interdiction de vendre des armes offensives à l'Arabie Saoudite, potentiellement dans les semaines à venir, selon le Financial Times. Washington a déjà fait savoir à l'Arabie Saoudite qu'elle était prête à lever l'interdiction, rapporte le journal, citant une personne proche du dossier. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré mercredi que les États-Unis et l'Arabie Saoudite étaient sur le point de conclure une série d'accords sur l'énergie nucléaire, la sécurité et la coopération en matière de défense, qui constituent le volet bilatéral d'un accord de normalisation plus large avec Riyad et Israël. Toutefois, la levée de l'interdiction des ventes d'armes offensives n'est pas directement liée à ces discussions, selon le journal britannique. Peu après son entrée en fonction en 2021, Joe Biden avait adopté une position plus dure à l'égard de la campagne menée par l'Arabie Saoudite contre les forces yéménites qui a fait de nombreuses victimes civiles et à l'égard du bilan de Riyad en matière de droits de l'homme, en particulier l'assassinat en 2018 du journaliste du Washington Post et opposant politique Jamal Khashoggi. L'Arabie Saoudite, qui est le plus gros client des États-Unis en matière d'armement, a souffert de ces restrictions qui ont gelé le type de vente d'armes que les administrations américaines précédentes avaient fournies pendant des décennies. Selon ce rapport, l'armée saoudienne est constituée de toutes sortes d'équipements américains. Les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite remontent à 88 ans. Le département d'État américain a annoncé récemment que les deux pays partageaient des intérêts communs dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité du Golfe Persique et se consultaient sur un large éventail de questions régionales et mondiales. Le journal Financial Times n'a pas mentionné le type d'armes offensives que les États-Unis envisagent de vendre à l'Arabie Saoudite.